2025, donc jeudi 6 novembre 2025, séance consacrée à la lecture du traité théologico-politique de Spinoza qui est paru en 1670. Alors, vous avez le plan de la séance qui peut vous aider à suivre, quelques extraits de l'œuvre sur lequel je m'appuierai. Et puis, avant d'entrer dans la lecture du premier chapitre consacré à la prophétie, eh bien, il me faut, je pense, présenter tout de même Spinoza, même si vous le connaissez pour certains. Il faut que je dise quelques mots sur le contexte historique et culturel dans lequel il a écrit. Il faut que j'indique les raisons qui l'ont poussé à écrire ce traité, montrer son objet, son plan. Cela nous demandera un petit peu de temps. Et pour présenter le traité théologico-politique, je ferai appel à quelques extraits de la préface et du chapitre 7. Alors, je vous signale que vous disposez d'un commentaire complet de la préface du traité théologico-politique dans une vidéoconférence sur YouTube que j'avais faite en 2020 pendant la crise du Covid. Donc, vous pouvez la trouver facilement. Alors, le traité théologico-politique, donc qui est l'œuvre que nous allons lire ensemble, c'est le seul ouvrage que Spinoza ait publié de son vivant, en 1670 à Amsterdam, de manière anonyme. C'est un ouvrage qu'il ne comptait pas mettre dans les mains de tout le monde. Alors, il l'a écrit en latin, c'est pas pour rien. Il n'a pas écrit en hollandais. Et c'est vrai que, comme il le dit dans sa préface, il s'adresse seulement à un public disposé à philosopher, c'est-à-dire, au fond, à exercer sa raison. Car il savait que la plupart des hommes de son temps, superstitieux et intolérants, lui feraient un très très mauvais accueil. C'est d'ailleurs ce qui arriva, malgré l'anonymat de sa publication, Spinoza fut très vite reconnu comme l'auteur d'ouvrage et violemment attaqué. Cet événement en dit long, en tout cas, sur le climat d'intolérance qui régnait à partir des années 70 dans les provinces unies, qui sont pourtant, à cette époque, le pays le plus tolérant en Europe. À vrai dire, la vie de Spinoza est marquée par le problème de l'intolérance. Pas seulement dans le présent de son existence, mais aussi dans le passé de ses origines familiales. Baruch Spinoza, en hollandais, Benito, en portugais, est né en 1632 et il mourra en 1677, 44 ans. Il est le fils d'un marchand juif d'Amsterdam, originaire du Portugal, qui a été contraint de fuir la péninsule ibérique à la fin du XVIe siècle. Alors, un éclairage historique est ici nécessaire. Il faut rappeler qu'au moment même où le royaume musulman de Grenade tombe aux mains des rois catholiques en 1492, ceux-ci prononcent un édit d'expulsion des Juifs qui vivaient en Espagne depuis des siècles. Les Juifs étaient contraints soit de s'exiler, certains partirent dans l'Empire ottoman, d'autres en Afrique du Nord, soit de se convertir à la religion catholique s'ils voulaient rester en Espagne. Un certain nombre de Juifs choisirent de se réfugier dans le pays voisin, qui était le Portugal. Et c'est très vraisemblablement le cas de la famille de Spinoza. Ils y connurent un répit de courte durée, puisque bientôt, le futur roi du Portugal dut se marier à l'infante Isabelle d'Espagne, et le Portugal dut alors accepter sa christianisation intégrale en 1497. Toutefois, à partir de cette date, les Juifs, certes, officiellement, sont convertis à la religion catholique, ceux qui veulent rester, mais ils n'en continuent pas moins de pratiquer leur religion en cachette, sans être sérieusement inquiétés, en tout cas au Portugal. Mais en 1536, le roi du Portugal obtient, comme en Espagne, la création d'une inquisition qui va s'avérer particulièrement féroce pour son royaume. Ainsi, la situation de ceux qu'on peut appeler des crypto-juifs devient partout intolérable et dangereuse dans la péninsule ibérique, pas seulement en Espagne, mais aussi désormais au Portugal. Les nouveaux convertis sont continuellement suspectés de judaïsme par l'Inquisition, et à cette obsession maniaque de la pureté chrétienne viennent s'ajouter les statuts de la pureté du sang en fonction desquels les nouveaux chrétiens, dont la généalogie comporte des juifs, eh bien, en fonction desquels, donc, les nouveaux chrétiens ne peuvent pas accéder aux universités, aux ordres religieux et politiques, aux ordres religieux et militaires, et aux responsabilités politiques. Ces statuts de la pureté du sang reviennent à diviser, au fond, le pays en deux catégories. Les anciens chrétiens, qui sont purs de toute allégeance ancienne au judaïsme, et puis les nouveaux chrétiens, soupçonnés d'être des crypto-juifs, considérés comme des chrétiens de seconde zone. Et c'est dans ce contexte que de nombreux juifs espagnols et portugais décident de fuir la péninsule ibérique, à la fin du XVIe siècle surtout, et gagnent soit Amsterdam, soit Hambourg. La famille de Spinoza est dans ce cas, après un séjour à Nantes à la fin du XVIe siècle, elle choisit de s'installer à Amsterdam au tout début du XVIIe siècle, où elle trouve une importante colonie de Juifs qui ont fui déjà l'Espagne et le Portugal et se trouvent installés. Et pour approfondir cette question, j'ai un conseil de lecture. Vous pouvez lire ce livre très agréable qui s'appelle « Être juif à Amsterdam au temps de Spinoza » d'Henri Méchoulan, chez Albin Michel. Alors, les Juifs sont d'autant mieux accueillis aux Provinces-Unies que celles-ci ont dû combattre pendant près d'un siècle pour obtenir leur indépendance et se libérer de la tutelle de l'Espagne catholique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les Provinces-Unies à cette époque ? Essentiellement les Pays-Bas et la Belgique d'aujourd'hui. Elles sont constituées par 7 provinces, dont la province la plus importante est la Hollande. La République des Provinces-Unies se constitue en 1579. Et il faut près d'un siècle de combat pour que les Provinces-Unies contraignent enfin l'Espagne à reconnaître leur indépendance, en 1648, par le traité de Münster. Alors, le XVIIe siècle est véritablement l'âge d'or des Provinces-Unies. Amsterdam détient la plus grande banque du monde, c'est la plus grande place financière, et elle est aussi le port de commerce le plus important. Et le pays jouit d'une grande prospérité. C'est aussi une terre d'asile où trouvent refuge les savants et les philosophes qui subissent partout ailleurs en Europe des persécutions. Il faut se rappeler qu'au XVIe et XVIIe siècle, l'Europe est plongée dans des guerres de religion. C'est en 1572, en août 1572, qu'a lieu notamment en France le massacre de la Saint-Barthélemy. 10 000 protestants sont massacrés. Rappelons aussi que le savant Galilée fut contraint d'abjurer sa théorie astronomique en juin 1633. L'idée que le soleil est au centre et que la terre tourne autour de lui était jugée fausse et hérétique. par l'Église catholique. Donc, contrairement au reste de l'Europe, les Provinces-Unies bénéficient d'un certain climat de tolérance religieuse. Cette tolérance est constitutive de la nouvelle nation, puisque la déclaration d'Utrecht, qui scelle sa naissance en 1579, comporte un article qui interdit toute forme de persécution religieuse. Et l'indépendance des Provinces-Unies permet ainsi d'instaurer une république qui reconnaît le pluralisme religieux. Ainsi, il n'est pas interdit d'être catholique. Le catholicisme était pourtant la religion que voulait imposer l'oppresseur espagnol. Et les Juifs qui viennent s'établir aux Provinces-Unies, ont la possibilité de pratiquer leur culte. C'est pourquoi Spinoza tient à exprimer sa gratitude pour la République d'Amsterdam. À deux reprises d'ailleurs, dans le traité théologico-politique, dans la préface et dans le dernier chapitre, chapitre 20. C'est une république où, dit-il, on connaît le rare bonheur de vivre dans un État qui reconnaît à chacun une entière liberté de juger et d'honorer Dieu selon sa complexion propre. C'est dans la préface. Toutefois, si Spinoza tient tant à exprimer sa gratitude à la République d'Amsterdam, c'est qu'il en mesure la fragilité. Avant d'ailleurs d'être une république, les Provinces-Unies ont été gouvernées quelque temps par une aristocratie militaire. Elles ont été sous la domination de la dynastie des princes d'Orange, qui ont combattu d'ailleurs, qui ont combattu contre l'oppresseur espagnol. Et c'est en 1653 que la République est instaurée. Donc Spinoza est assez jeune à l'époque. C'est une République fédérative, fondée sur les assemblées de 7 provinces, sous la direction d'un grand pensionnaire qui est Jan de Witt. La République, hélas, sera renversée en 1672, peu de temps après la parution du traité théologico-politique. Il est clair en tout cas que si la tolérance existe aux Provinces-Unies, elle le doit à la structure républicaine de l'État, aucunement aux églises, et certainement pas à l'église dominante qui est, dans les Provinces-Unies, l'église calviniste. Les théologiens calvinistes voudraient imposer un contrôle de la vie morale des citoyens. Ils sont favorables, en ce sens, à une subordination de l'État à l'église, qui leur permettent, par exemple, de faire interdire des publications ou de faire appliquer des excommunications. La tolérance est ainsi menacée par les prétentions hégémoniques des calvinistes orthodoxes qui souhaiteraient en finir avec la République et mettre en place un régime autoritaire et intolérant. Et c'est ce qu'ils parviendront à faire en faisant revenir au pouvoir la dynastie des princes d'Orange en 1672. À cette date, les troupes du roi de France, Louis XIV, envahissent le pays et une partie de la population se révolte alors contre Jan de Witt, qui est chassé du pouvoir et qui est lynché, véritablement lynché, car cette foule est convaincue qu'il est responsable de la défaite des troupes néerlandaises et qu'il n'a rien fait pour organiser une défense efficace contre l'ennemi. Et bien sûr, ces gens-là sont favorables à l'instauration d'un pouvoir fort et intolérant. Mais déjà, la tolérance ne régnait pas non plus à l'intérieur de la communauté juive à laquelle appartenait la famille Spinoza. C'est ainsi que de grands intellectuels, avant Spinoza et après Spinoza, c'est-à-dire Uriel da Costa, puis Juan de Prado, que Spinoza connaissait bien, eh bien Spinoza est excommunié en 1656. Alors le mot excommunication n'est pas le bon mot, Il traduit de manière approximative, dans le langage chrétien, la sanction qui est prononcée contre Spinoza par la synagogue. Elle prononce contre lui un herem, H-E-R-E-M. C'est-à-dire qu'il lui est interdit désormais d'avoir le moindre contact avec les membres de la communauté juive et sa famille, et il doit renoncer au commerce et à poursuivre les activités professionnelles de son père qui faisait de l'import-export. Et il doit déménager hors du quartier juif. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche ? On lui reproche ses opinions hétérodoxes. Il met en cause l'élection du peuple juif par Dieu. Il nie l'immortalité de l'âme. Et il considère que Dieu n'existe que philosophiquement, comme ce que seule la raison peut concevoir. On aura l'occasion de revoir ça. Alors, les rabbins... Eh bien, les rabbins demandent aux autorités civiles d'Amsterdam l'expulsion de Spinoza hors de la ville. Ils n'y arriveront pas tout de suite, puisque ce n'est qu'au bout de 5 ans, sous la pression conjuguée des rabbins et des calvinistes orthodoxes, que Spinoza sera contraint de quitter Amsterdam. Alors, il s'établit dans un petit village, Ringsburg, près de la ville de Leyde, où il fréquente les membres d'une secte protestante libérale, les collégiens, qui ne reconnaissent pas l'autorité de l'Église calviniste et qui revendiquent une entière liberté de pensée. Et c'est à leur contact qu'il va vraiment prendre connaissance du christianisme. Et c'est à Ringsburg également qu'il s'ouvre aussi à la philosophie cartésienne, à la philosophie moderne. Le grand philosophe de référence, c'est Descartes et aussi Hobbes, Thomas Hobbes, sur le plan politique. Et le premier ouvrage, d'ailleurs, de Spinoza est consacré à un commentaire de la philosophie de Descartes. Alors, quand je dis philosophie, à l'époque, philosophie-science, c'est la même chose. Descartes est philosophe, géomètre, physicien. C'est un tout. Et c'est là encore qu'il commence une correspondance importante avec de nombreuses personnalités du monde scientifique, parmi lesquelles des mathématiciens comme Oldenburg, Hude, qui est par ailleurs un bourgmestre de la ville d'Amsterdam, Tirnhaus, et puis quelques autres, toute une élite intellectuelle, si vous voulez. Et on dit que Spinoza gagnait sa vie comme artisan en polissant des verres à Ringsburg. C'est vrai, mais il ne s'agissait pas d'une activité artisanale anodine. Polir des verres, à l'époque, c'était fabriquer des télescopes et des microscopes. Spinoza, d'ailleurs, a dû apprendre d'abord l'optique en tant que science, en lisant les travaux du philosophe Descartes, avant de polir des verres. Descartes est le premier théoricien de l'optique. C'est à lui qu'on doit les lois de la réflexion et de la réfraction. Alors, on peut considérer que cette activité relève de ce que l'on appellerait aujourd'hui une technologie de pointe, comme l'informatique ou l'intelligence artificielle, si vous voulez. Il faut par ailleurs préciser que s'il avait fallu que Spinoza exerce une activité artisanale à plein temps pour vivre, jamais il n'aurait pu se consacrer à l'étude et à la réflexion. Il n'a pu s'y consacrer que parce qu'il était aidé financièrement par ses amis, qui étaient convaincus de l'importance de son travail intellectuel et qui y participaient activement. Par leurs entretiens avec Spinoza et par leur correspondance. C'est ainsi que Simon de Vries, l'un de ses amis, avant de mourir, avait confié le soin dans son testament à sa famille de verser une rente annuelle à Spinoza jusqu'à la fin de ses jours. En tout cas, c'est en réaction à la montée de l'intolérance que Spinoza va délaisser temporairement la rédaction de son, principal ouvrage, qui est l'Éthique, qu'il a commencé en 1662, pour écrire le fameux traité théologico-politique en 1665 et qu'il achèvera et fera paraître en 1670. Il explique le projet de son traité dans une lettre qu'il adresse à son ami Oldenburg en 1665. Et qu'est-ce qu'on y lit ? Eh bien, on lit qu'il écrit le traité théologico-politique d'abord pour se défendre contre l'accusation d'athéisme qui est régulièrement portée contre lui. Au XVIIe siècle, l'athée n'est pas seulement celui qui nie l'existence de Dieu. C'est surtout celui qui ne reconnaît pas l'immortalité de l'âme et ne croit pas que Dieu ordonne le monde par sa sagesse et distribue après la mort châtiment et récompense. Et c'est ça l'accusation d'athéisme, hein, voyez, fondamentalement. C'est-à-dire que l'athée est soupçonné d'être un mauvais homme, un homme de mauvaise vie, un mécréant. Voyez. Et c'est cette accusation qui colle à la peau, en quelque sorte, de Spinoza et qui lui vaut surtout d'être inquiété et persécuté. Et il s'aperçoit que l'un de ses amis, qui vient d'écrire un ouvrage très critique de la religion chrétienne, de l'Église catholique, de l'Église, des églises chrétiennes, Adrian Korbag, il avait écrit cet ouvrage en hollandais, il aurait dû l'écrire en latin, a été arrêté, a été effectivement dénoncé d'abord par son éditeur, arrêté et condamné à 10 ans de prison. Et au bout d'un an de prison, il meurt. Et ça, c'est un événement qui va beaucoup marquer Spinoza. Donc, et ces juges voulaient savoir si Spinoza avait participé indirectement à la rédaction de son ouvrage. Donc, Spinoza écrit d'abord le TTP pour lutter contre cette accusation. Mais il l'écrit aussi pour combattre les préjugés des théologiens, qui, selon lui, empêchent les hommes d'exercer librement leurs pensées. Et le sous-titre de l'ouvrage indique clairement, d'ailleurs, son objet. Et vous l'avez, je vous l'ai photocopié, la première feuille, en haut à gauche. Il s'agit de montrer, je cite, que la liberté de philosopher non seulement peut être accordée sans danger pour la piété et la paix de l'État, mais même qu'on ne peut la détruire sans détruire en même temps la paix de l'État et la piété elle-même. Donc, vous voyez, c'est ça l'objet du traité théologico-politique. Alors, la liberté de philosopher, ce n'est pas autre chose que la liberté de penser, d'exercer sa raison, sans être soumis aux préjugés. Pas seulement dans le domaine de ce que nous appelons la philosophie, mais aussi dans celui des sciences. Vous voyez, la liberté de philosopher, elle a un sens large. Ainsi, le traité théologico-politique est écrit contre les préjugés des théologiens, contre les accusations qu'ils portent, contre la liberté de penser, qu'ils accusent d'être nuisibles à la piété, donc à la religion, et à la paix civile. Et Spinoza va montrer que non seulement la liberté de penser ne leur est pas nuisible, mais qu'elle leur est au contraire utile et nécessaire. C'est ce qu'il va montrer dans le traité théologico-politique. Et conformément à ce qu'indique le sous-titre du traité, eh bien, l'ouvrage va être composé de deux parties. Et nous nous occuperons principalement de la première partie. Il s'agira d'abord, donc c'est la première partie, de confronter la liberté de penser au domaine de la théologie, hein, traité théologico-politique. Hein. Il s'agira d'abord de confronter la liberté de penser au domaine de la théologie, c'est-à-dire, ici, il faut comprendre que le domaine de la théologie, c'est le domaine de la piété. le domaine de la religion. Alors, la question, c'est, est-ce que la piété impose des limites à la liberté de penser ? Est-ce qu'il est nécessaire, pour préserver la piété, de restreindre et d'interdire la liberté de penser ? Donc, c'est cette première partie que nous aborderons, surtout dans ces premiers chapitres. Et cette première partie, elle va du chapitre 1 au chapitre 15, inclus. Nous laisserons de côté la deuxième partie de l'ouvrage, qui est d'ailleurs plus connue, plus célèbre, peut-être, qui concerne la politique, et qui va des chapitres 16 à 20. Le problème ici, c'est celui de savoir si l'État doit interdire la liberté de penser pour assurer la paix civile. Si la discussion entre des opinions opposées ne risque pas, vous voyez, d'entraîner une forme, la guerre, le conflit entre les citoyens. Parce qu'il ne faut pas que l'État, ici, interdise, limite la liberté de penser pour obtenir la paix civile. Alors, avant de commencer la lecture des premiers chapitres, je voudrais montrer les causes qui ont déterminé Spinoza à rédiger son traité. Qu'est-ce qui a poussé Spinoza à rédiger son traité ? Et sur ce point, sa préface est très éclairante. Alors, je n'en ferai pas le commentaire intégral, puisque je vous renvoie ici à ce que j'ai fait dans une vidéoconférence qui est disponible sur YouTube, commentaire de la préface du traité théologico-politique. Alors, je lis dans la préface, et vous lirez avec moi, deuxième colonne, à partir de la ligne 80. J'ai vu maintes fois, avec étonnement, des hommes fiers de profiter. Je reprends. J'ai vu maintes fois, avec étonnement, des hommes fiers de professer la religion chrétienne, c'est-à-dire l'amour, la joie, la continence et la bonne foi envers tous, se combattre avec une incroyable ardeur malveillante et se donner des marques de la haine la plus âpre, si bien qu'à ces sentiments, plus qu'aux précédents, leur foi se faisait connaître. Voilà le spectacle étonnant qui va susciter l'interrogation de Spinoza. C'est le spectacle étonnant de l'intolérance religieuse dont font preuve les chrétiens. Ici, les chrétiens, c'est aussi bien les catholiques que les calvinistes et d'autres encore, qu'on peut observer, effectivement, à son époque en Europe. C'est ce spectacle qui suscite son interrogation et le pousse à écrire le traité théologico-politique. Alors, les uns et les autres, je parle des chrétiens, prêchent fièrement les vertus évangéliques, l'amour, la joie, la bonne foi, mais cela ne les empêche pas de s'opposer les uns aux autres avec la haine la plus âpre, dit Spinoza. Ainsi, loin que la foi des chrétiens consiste dans l'amour du prochain, elle consiste plutôt dans la haine à l'égard de ceux qui ne partagent pas les mêmes dogmes et sont combattus comme des hérétiques. Alors, comment comprendre que la religion chrétienne qui professe l'amour du prochain se transforme ainsi en instrument de haine ? Telle est l'énigme. On observe encore cet étonnant spectacle lorsque l'on voit la manière dont les chrétiens abordent l'Écriture. J'entends par là la Bible. Et ici, il faut se reporter au début du chapitre 7, que vous avez, page 2. Les premières lignes du chapitre 7. Chapitre 7, qui traite de l'interprétation de l'Écriture. Tout le monde dit bien que l'Écriture sainte est la parole de Dieu et qu'elle enseigne aux hommes la béatitude vraie ou la voie du salut. La conduite des hommes montre tout autre chose. Car le vulgaire, c'est-à-dire au fond l'opinion courante, le vulgus, c'est le peuple. au sens péjoratif, hein, la foule. Car le vulgaire ne paraît se soucier de rien moins que de vivre suivant les enseignements de l'Écriture sainte. Et nous voyons que presque tous substituent à la parole de Dieu leurs propres inventions et s'appliquent uniquement sous le couvert de la religion à obliger les autres à penser comme eux. La Bible est ainsi devenue un instrument de haine et de discorde, puisque les uns et les autres prétendent être les détenteurs de la vérité de son enseignement et, invoquant pour eux la sacralité du texte, ils prétendent faire taire ceux qui en proposent une lecture différente. Et alors que c'est ce que nous verrons, hein, alors que la Bible n'enseigne rien d'autre que la pratique de la justice et de la charité. C'est son enseignement, quels que soient d'ailleurs les prophètes. Eh bien, les théologiens leur prêtent, ou plutôt, les théologiens lui prêtent à la Bible, leurs propres inventions, leurs propres jugements arbitraires, et ils les font passer ainsi pour un enseignement divin auquel il serait sacrilège de désobéir. Je vous propose de lire la suite du passage. Ligne 9. Nous voyons, dis-je, les théologiens inquiets pour la plupart du moyen de tirer des livres sacrés en leur faisant violence leurs propres inventions et leurs jugements arbitraires et de les abriter sous l'autorité divine. Fin de citation. Donc vous voyez que la religion, ainsi que le texte sacré sur lequel elle s'appuie, eh bien la religion devient un véritable enjeu de pouvoir. L'essentiel n'est plus alors d'aimer son prochain, l'essentiel c'est d'avoir raison contre ceux qui ne partagent pas les mêmes dogmes. Et on a raison contre eux parce qu'on prétend invoquer pour soi l'autorité du livre. La foi ne se manifeste plus par des actes de justice et de charité, mais elle consiste à se conformer à la vraie religion, c'est-à-dire la religion dont les dogmes sont tenus pour vrais, en adoptant les discours et les rites qui conviennent, et à se démarquer de cette façon, de manière ostentatoire, de ceux dont la religion est déclarée fausse. Alors, là encore, lisons un autre extrait tout à fait parlant qui décrit très très bien la situation. Retournez à la page 1, ligne 86 à 93. Deuxième colonne. Voilà longtemps déjà, les choses en sont venues au point qu'il est presque impossible de savoir ce qu'est un homme, chrétien, turc, juif ou idolâtre, sinon à sa tenue extérieure et à son vêtement, ou à ce qu'il prétend, ou à ce qu'il fréquente telle ou telle église, ou enfin à ce qu'il est attaché à telle ou telle opinion et jure sur la parole de tel ou tel maître. Pour le reste, leur vie à tous est la même. C'est-à-dire qu'ils sont tous dans la haine. Ce qui compte donc désormais, pour ces hommes, en matière de religion, c'est le culte extérieur. Ce sont les signes d'une appartenance. La religion devient essentiellement l'affaire d'une église, d'une communauté, à laquelle il est essentiel de montrer qu'on se rattache par sa tenue extérieure, par son vêtement ou par les paroles qu'on répète rituellement. Encore une fois, c'est vraiment l'énigme. Comment expliquer cette perversion de la religion, cette dénaturation de la religion? Comment expliquer qu'elle devienne une affaire qui oppose des églises, des communautés, comme on dit aujourd'hui, voire des civilisations, et qu'elle devienne ainsi une marque d'identité. Et qu'elle puisse évidemment alors engendrer l'intolérance à l'égard des hommes qui ne partagent pas le même culte. Alors, il y a une première cause à ce phénomène de perversion. C'est, comme l'explique Spinoza, je cite, « l'ambition et l'avidité sordide de quelques hommes qui cherchent le moyen d'exercer une domination au sein de l'Église pour bénéficier de ses avantages » et avoir un pouvoir sur les esprits. Quand la religion devient un enjeu de pouvoir, il n'est pas étonnant que ce soit les hommes les plus méchants, et l'expression est de Spinoza, il n'est pas étonnant que ce soit les hommes les plus méchants qui cherchent à exercer les fonctions sacerdotales. Car ces fonctions sont l'occasion de recevoir des honneurs, et aussi des prébendes. Et Spinoza écrit ainsi dans la préface, ligne 99 à 112, donc toujours page 1, ligne 99. Dès que cet abus a commencé dans l'Église, en effet, un appétit sans mesure d'exercer les fonctions sacerdotales a pénétré dans le cœur des plus méchants. L'amour de propager la foi en Dieu a fait place à une ambition et à une avidité sordide. Le temple même a dégénéré en un théâtre où l'on entendit non des docteurs mais des orateurs d'église, dont aucun n'avait le désir d'instruire le peuple, mais celui de le ravir d'admiration, de reprendre publiquement les dissidents, de n'enseigner que des choses nouvelles, inaccoutumées, propres à frapper le vulgaire d'étonnement. De là, en vérité, ont dû naître de grandes luttes, de l'envie et une haine que les années écoulées furent impuissantes à apaiser. Donc, vous voyez que derrière les querelles théologiques, il y a des ambitions opposées. Chacun des théologiens veut imposer sa doctrine pour conquérir un pouvoir sur les consciences. On a affaire à une lutte sans merci, où au nom de Dieu, tous les coups sont permis pour discréditer et détruire son adversaire. L'essentiel, c'est d'impressionner le peuple, de le ravir d'admiration, afin d'exercer sur lui une influence. Et c'est en ce sens, comme dit Spinoza, que le temple a dégénéré en théâtre. C'est ce qu'écrit Spinoza. Car le temple est devenu le lieu d'affrontement des théologiens, qui, à la manière des orateurs que fustigeait Socrate à Athènes, utilisent tous les artifices de la rhétorique pour produire leur effet, pour impressionner le peuple. Toutefois, une chose est certaine, l'ambition des théologiens n'aurait pas d'efficacité si les hommes auxquels ils s'adressent n'étaient pas déjà enclins à la superstition. C'est la superstition des hommes qui permet aux théologiens d'exercer sur eux une influence en flattant leur passion. Donc, vous voyez que, et c'est ce que Spinoza montre bien dans la préface du traité théologico-politique, la véritable cause de la perversion de la religion et de l'intolérance religieuse, ce n'est pas l'ambition des théologiens, c'est la superstition que ces derniers n'inventent pas, mais qu'ils exploitent. Et pour savoir en quoi consiste la superstition et pour comprendre ses conséquences intellectuelles, morales et politiques, évidemment, il faut lire avec attention les premières pages de la préface. Les hommes sont tous sujets à la superstition. Elle n'épargne personne. Hein. Dans la mesure où la puissance des hommes est limitée et elle se trouve soumise au jeu des forces extérieures, et les hommes sont d'autant plus superstitieux qu'ils sont inquiets de l'avenir et vivent dans la crainte d'événements défavorables. Et quand ils sont taraudés par la crainte, et le sentiment d'insécurité, ben ils sont prêts à adopter n'importe quelle croyance nouvelle pourvu qu'elle les apaise. Ainsi, les hommes sont prêts à suivre n'importe quel théologien qui leur proposera une doctrine qui soit de nature à leur donner des certitudes et à calmer leurs craintes. La superstition, on l'a vu aussi dans la préface, conduit les hommes à mépriser la raison, dans la mesure où la raison leur apparaît impuissante à leur procurer ce qu'ils désirent et à les protéger de ce qu'ils craignent. Et pourtant, la raison est la faculté qui seule peut donner les moyens aux hommes de se conduire eux-mêmes, d'être vraiment libres. Mais l'homme superstitieux ne croit pas qu'il puisse compter sur elle pour comprendre le monde et éclairer sa conduite. Il préfère interpréter la réalité en fonction de ses angoisses et imaginer que la nature obéit à des intentions surnaturelles. C'est ainsi qu'il imagine que Dieu, ou les dieux, selon qu'il s'agisse d'une religion monothéiste ou polythéiste, ben, il imagine que Dieu exprime sa volonté à travers les événements, heureux ou malheureux, qui lui arrivent. Et que Dieu récompense les hommes lorsque ces événements sont heureux, ou qu'il les punit quand ils sont malheureux. L'homme superstitieux croit alors possible d'infléchir la volonté divine en sa faveur, en obtenant sa bienveillance, sa miséricorde, par des prières, par des rites appropriés. Et on voit ainsi que la superstition est à la fois une croyance intéressée et une pratique. Elle est une croyance intéressée en une révélation particulière de Dieu qui s'adresse aux hommes par des signes comme des miracles. Et elle est aussi un système de conduite destiné à obtenir de Dieu qu'il réponde aux angoisses et qu'il satisfasse les désirs des hommes. Vous voyez, la superstition, elle est à la fois une croyance et une pratique. Et pour en revenir aux théologiens, eh bien, ceci s'appuie justement sur la superstition des hommes, en leur faisant croire que l'Écriture, que la Bible, est un texte sacré qui ne peut qu'échapper à la raison humaine et qu'il faut être inspiré par l'Esprit Saint pour en comprendre les profonds mystères. Les théologiens font donc tout pour favoriser une lecture superstitieuse de la Bible qui crédite leur autorité. Et là, je vous invite encore à lire un extrait du chapitre 7, ligne 38 à 50, donc page 2. À ces mots se joignit la superstition qui enseigne à mépriser la nature et la raison, à admirer et à vénérer cela seulement qui leur contredit, comme les miracles par exemple. Aussi n'est-il pas surprenant que les hommes, pour mieux admirer et vénérer davantage l'Écriture, se soient attachés à l'expliquer de telle sorte qu'elle semble le plus contraire qui se puisse à cette même nature et à cette même raison. Ainsi en vient-on à rêver que de très profonds mystères sont cachés dans les livres saints et l'on s'épuise à les sonder, négligeant l'utile pour l'absurde. Et tout ce qu'on invente dans ce délire, on l'attribue à l'Esprit Saint et l'on tâche de le défendre de toutes ses forces avec l'ardeur de la passion. Fin de citation. Dénaturant la religion et le texte sur lequel elle s'appuie, donc la superstition d'ailleurs ne permet pas seulement aux théologiens d'exercer une emprise idéologique sur les hommes, mais elle favorise aussi l'existence et le maintien des états despotiques. C'est ce problème qui est particulièrement abordé dans la deuxième partie de l'ouvrage, surtout dans son dernier chapitre, le chapitre 20. Mais comme l'explique déjà Spinoza dans sa préface, en se référant à une citation de l'historien latin Cancurs, la superstition est le moyen le plus efficace de gouverner la multitude, de gouverner les hommes, puisque grâce à elle, on obtient des hommes, le pouvoir obtient des hommes, leur consentement sous couvert de religion. Parce que quand les hommes craignent superstitieusement la colère de Dieu, ben ils sont prêts à obéir aux ordres d'un monarque qui prétend gouverner au nom de Dieu. Ils sont prêts à obéir à des ordres qui sont pourtant contraires à leurs intérêts. Vous voyez ? Donc, grâce à la superstition, on obtient leur consentement. Et comme on l'aura compris, il y a donc un lien étroit entre la superstition, l'intolérance et puis le despotisme. En confondant les discours religieux, en confondant le discours religieux avec l'enseignement d'une vérité sacrée, dont ils se prétendent les interprètes légitimes, eh bien, les théologiens contribuent non seulement à entretenir une image superstitieuse de la religion, mais ils préparent en outre le terrain à une subordination de la politique à la religion qui exclut toute liberté de penser. Et c'est pourquoi il paraît urgent et nécessaire à Spinoza de détruire leurs préjugés. D'abord en saisissant la nature, la véritable nature de la religion, la véritable nature de la piété, en dégageant le véritable sens de ce qu'enseigne la Bible, qui est le livre, évidemment, auquel la religion se réfère. Alors ici, si on considère les religions de manière générale, on peut dire qu'elles s'appuient toujours sur une tradition. Mais cette tradition peut être seulement orale, comme c'est le cas des religions fondées sur la coutume, qui sont essentiellement des religions ethniques, ou cette tradition peut aussi renvoyer à un texte tenu pour sacré et directement inspiré par Dieu. On parle alors des religions du livre. Vous voyez ? Il y a deux sortes de religions, si vous voulez. La réflexion de Spinoza aborde les religions du livre, qui sont des religions révélées. Puisque ici, Dieu se révèle aux hommes à travers les prophètes. Vous voyez ? Et le contenu de la révélation est transcrit dans un texte qui est appelé l'Écriture sainte. Alors on connaît ainsi, ça vous le savez tous, la Bible juive, dans le cas du judaïsme, qui correspond à ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, la Bible chrétienne, qui comprend l'Ancien Testament et ce qu'on appelle le Nouveau Testament, c'est-à-dire tous les écrits relatifs à la vie de Jésus et à l'enseignement de ses premiers disciples. Et puis vous avez le Coran, qui est un livre censé avoir été donné d'une seule fois, une fois pour toutes, à Mahomet, son prophète. Donc il y a trois sortes de religions du livre. Alors, Spinoza connaît très peu la religion musulmane, il n'en parle pas. Il se réfère à la Bible et restreint donc son étude au judaïsme et au christianisme. Alors, il est temps maintenant d'aborder la lecture de ces deux premiers chapitres du traité théologico-politique qui sont consacrés pour le premier à la prophétie et pour le second au prophète. Les prophètes ont une place importante dans la religion juive, dans la Bible juive, ou dans ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. puisque c'est par le prophète que Dieu s'adresse aux hommes. C'est par lui, c'est par l'intermédiaire du prophète que Dieu révèle sa parole. Et le prophète parle ainsi au nom de Dieu. Alors, je commencerai par résumer la démarche de Spinoza dans les deux premiers chapitres que nous allons lire attentivement. Parce que ça peut être ici utile. Vous verrez qu'après avoir défini d'abord la prophétie, selon l'usage qu'en font ordinairement les hommes, la prophétie se présente comme une connaissance d'origine surnaturelle, elle se présente comme une révélation d'origine divine. Et bien après avoir défini donc ainsi la prophétie, Spinoza va se démarquer de cette définition et il va mettre en question l'idée d'une révélation divine. Et à la fin de son premier chapitre, vous le verrez, il s'oppose à la définition initiale qu'il a donnée de la prophétie, qui au fond est conforme à ce que les hommes en pensent en général. Il conclut que, loin d'être une connaissance certaine qui vient d'un Dieu transcendant, la prophétie est plutôt la production de l'imagination des prophètes. Elle est la production de l'imagination des prophètes. Alors, cette conclusion ne conduit pas pour autant Spinoza à considérer la prophétie comme un énoncé complètement faux, comme une fiction purement arbitraire, voire mensongère, dénuée de toute valeur. Ce n'est pas la conclusion qu'il va faire. Non, mais il va montrer justement que la prophétie, certes, c'est un produit de l'imagination des prophètes, mais ce n'est pas n'importe quelle production de l'imagination. La prophétie, d'abord, elle est reconnue par les hommes à qui s'adresse le prophète. Elle s'impose aux hommes, hein. Et il faut que le prophète ait de grandes qualités, dont on verra quelles sont ses qualités, pour effectivement se faire en quelque sorte accréditer par les hommes. Donc la prophétie, c'est pas n'importe quoi. Elle joue un rôle très important auprès des hommes, auprès d'une collectivité. Et le prophète, si vous voulez, il a un rôle moral considérable. Vous voyez, il s'impose surtout de manière morale. Et au fond, c'est ce que montrera le second chapitre. Hein, il examinera ici le rôle des prophètes et les raisons de leur crédibilité auprès des autres hommes. Et on verra surtout que le prophète, finalement, eh bien, il a surtout pour fonction de conduire les mœurs des hommes, de les ramener en quelque sorte dans le droit chemin. Vous voyez ? Et c'est ça qui est le plus important. Évidemment, Spinoza ne croit pas que Dieu se révèle, on verra, on va voir pourquoi, que Dieu personnellement se révèle à travers la parole du prophète. Ça, c'est ce que, effectivement, les hommes disent de la prophétie, mais ils n'adhèrent pas, évidemment, à ce récit, sur le plan théorique. Donc, comme je le disais, je commence maintenant la lecture du premier chapitre. Le premier chapitre commence par une définition de la prophétie qui correspond à l'usage que les hommes donnent ordinairement à ce terme. Et là, vous lisez avec moi, page 3, la définition que j'ai soulignée, qui se trouve au début du chapitre. Une prophétie ou révélation, pour Spinoza, les termes sont synonymes, une prophétie ou révélation est la connaissance certaine révélée aux hommes par Dieu d'une chose quelconque. Donc une prophétie, c'est un message d'origine divine, surnaturel, transmis aux hommes par l'intermédiaire d'un prophète. Et vous voyez que la prophétie a ainsi une structure ternaire. Elle a une structure ternaire, c'est-à-dire il y a trois personnages, puisque entre sa source divine et son destinataire, c'est-à-dire les hommes auxquels Dieu s'adresse, il y a un intermédiaire, il y a un médiateur, et ce médiateur, c'est le prophète, qui transmet la parole divine. Et de ce fait, il y a une inégalité entre le prophète et les hommes auxquels il transmet et traduit le message divin. Ils ne sont pas sur le même pied. En effet, seul le prophète a une connaissance certaine de ce que révèle Dieu. Les autres hommes, comme le dit Spinoza dans la phrase suivante, les autres hommes ne peuvent le saisir que par la foi seulement, c'est-à-dire par la confiance. Je lis la phrase suivante, la deuxième phrase. Quant au prophète, c'est celui qui interprète les choses révélées par Dieu à d'autres personnes incapables d'en avoir une connaissance certaine et ne pouvant par suite les saisir que par la foi seulement. Donc, vous voyez que la prophétie n'est une connaissance certaine que pour le prophète. Les autres hommes sont réduits à s'en remettre à son autorité, à lui faire confiance. Le mot « foi » en latin, c'est « fides ». « Fides » qui donne la fidélité, « fides » qui veut dire la confiance. Et sans l'intervention du prophète, qui, remarque Spinoza, se dit chez les Hébreux « nabi »,« nabi », c'est-à-dire « orateur et interprète », eh bien, sans l'intervention du prophète, le message divin serait inaccessible et incompréhensible. Il est remarquable qu'après avoir défini la prophétie conformément à l'usage du terme qu'en font les hommes, c'est-à-dire conformément à l'approche superstitieuse qu'en ont ordinairement les hommes, eh bien, Spinoza relève que cette définition de la prophétie devrait tout aussi bien s'appliquer à ce qu'il appelle, vous allez voir, la connaissance naturelle, c'est-à-dire la connaissance qui se fait par la lumière naturelle. Et la lumière naturelle, c'est une métaphore pour exprimer la raison. Quand les philosophes au XVIIe, XVIIIe siècle parlent de la lumière naturelle, ils désignent la raison. C'est une métaphore pour dire la raison. Vous voyez ? Eh bien, donc, la définition de la prophétie, dit Spinoza, elle devrait normalement tout aussi bien s'appliquer à la connaissance naturelle, au fond, c'est-à-dire la connaissance rationnelle, la connaissance qui est effectuée par la raison. Étant entendu, comme le précise Spinoza dans le texte, que la raison, c'est un don naturel de Dieu. La raison, c'est un don naturel de Dieu. Et là, il faut lire avec attention le début du second paragraphe. Les choses là deviennent un peu plus difficiles pour la lecture, mais vous allez voir, on va arriver à comprendre ça. Ligne 17, regardez, ligne 17 à 23. Alors le passage, dans un premier temps, va vous paraître un peu difficile, mais ça va s'éclairer. Donc, nous traiterons des prophètes dans le chapitre suivant. Ici, de la prophétie, il suit de la définition que j'ai donnée qu'on peut appeler prophétie la connaissance naturelle. Car ce que nous connaissons par la lumière naturelle, c'est-à-dire par la raison, dépend de la seule connaissance de Dieu et de ses décrets éternels. Toutefois, cette connaissance naturelle étant commune à tous les hommes, car elle dépend de principes communs à tous, le vulgaire, c'est-à-dire les hommes ordinaires, les hommes ignorants et superstitieux, le vulgaire, toujours assoiffé de rareté et d'étrangeté, méprisant les dons naturels, n'en fait pas grand cas. Il entend donc l'exclure quand il parle de la connaissance prophétique. Alors évidemment, tout cela doit être expliqué progressivement. La définition initiale de la prophétie. Rappelez-vous cette définition. C'est une connaissance certaine révélée par Dieu. Eh bien, cette définition, normalement, elle devrait inclure la connaissance naturelle, qui n'est pas autre chose que la connaissance rationnelle. C'est-à-dire la science, en fait. Car la connaissance naturelle aussi est une révélation qui vient de Dieu, qui a fait don aux hommes de la raison. Dieu a fait don aux hommes de la raison. Donc quand les hommes connaissent, ils connaissent en se servant, en quelque sorte, de ce don que Dieu leur a donné. Elle est, je répète, la raison, un don naturel. Mais cette fois, dans le cas de la connaissance naturelle, il ne s'agit pas d'une révélation particulière donnée seulement à un prophète, mais il s'agit d'une révélation universelle qui se fait, comme dit Spinoza, selon des principes communs à tous, puisque ces principes dépendent de la raison qui est présente en chaque homme. C'est-à-dire qu'au fond, la raison de chaque homme est structurée par des principes, hein, par un certain nombre de principes grâce auxquels, effectivement, nous pensons. Et ces principes, ils sont communs à tous les hommes puisque tous les hommes possèdent la raison. Donc, au fond, dans le cas de la science, vous avez aussi une révélation, mais c'est une révélation universelle, puisqu'elle est accessible à tout le monde, pour peu, évidemment, que les hommes fassent l'effort de connaître. Donc, connaître naturellement, c'est ainsi exercer sa raison, c'est faire fructifier ce don naturel qui témoigne de la présence de Dieu en chacun de nous, puisque c'est un don qui vient de Dieu. Et quand nous connaissons naturellement, c'est-à-dire rationnellement, eh bien, cette connaissance, encore une fois, nous vient de Dieu. Donc, on devrait dire aussi que la connaissance naturelle est une prophétie. Et ce que les hommes appellent ordinairement une prophétie n'a pas le privilège de venir de Dieu, puisque la connaissance naturelle, si vous avez bien compris, elle vient aussi de Dieu. Seulement, et vous aurez compris que selon qu'on parle de connaissance naturelle ou de prophétie au sens usuel du terme, eh bien, on ne parle pas de Dieu de la même manière. Vous voyez ? Et c'est ça que je voudrais vous expliquer. C'est-à-dire que la connaissance naturelle, qui, selon les termes de Spinoza, dépend de la seule connaissance de Dieu et de ses décrets éternels, eh bien, cette connaissance naturelle diffère radicalement de la prophétie au sens ordinaire du mot, dans sa manière d'appréhender Dieu. Alors, j'explique cette différence. Connaître Dieu, c'est-à-dire le connaître naturellement, c'est-à-dire par la raison, en déployant sa raison, c'est connaître Dieu comme la source de la raison, comme la source de la raison qui nous permet de connaître toute chose. C'est-à-dire que la connaissance de Dieu ne peut être que rationnelle. Ce n'est qu'en déployant notre raison que nous pouvons concevoir Dieu comme la source de la raison qui est en nous, comme cette raison suprême, cette raison universelle, qui, au fond, s'exprime en nous, en chacun de nous, quand nous raisonnons. Et ce qu'écrit ici Spinoza renvoie à la première partie de son grand livre de philosophie qui est l'éthique, où Spinoza montre qu'il n'y a pas de différence entre Dieu et la nature. Il écrit « Deus sive natura », c'est-à-dire « Dieu ou la nature », c'est-à-dire c'est la même chose. C'est-à-dire « Dieu ou la nature », c'est-à-dire que Dieu n'est rien d'autre que la nature. C'est-à-dire, Dieu n'est rien d'autre que la nécessité universelle qui régit toute chose, aussi bien les phénomènes matériels qui s'enchaînent selon des lois rigoureuses, que les idées qui s'enchaînent en nous quand nous déployons notre raison, quand nous raisonnons. Vous voyez ? C'est-à-dire que Dieu, c'est la nature, au sens où la nature, c'est la totalité du réel, qui s'auto-produit selon une nécessité éternelle et immuable. Et au fond, Dieu, c'est pas autre chose que la réalité. La réalité avec un grand R, la réalité unique, ce que Spinoza appelle dans son éthique la substance unique dont chaque être, y compris chaque homme, est un mode, c'est-à-dire une partie. C'est-à-dire, au fond, nous sommes tous des parties de Dieu, au sens où nous sommes des parties de la nature. C'est-à-dire que le dynamisme divin, eh bien, il s'exprime et il se produit en chacune de ses parties. Et quand nous connaissons un phénomène, eh bien, nous le connaissons comme Dieu le connaît, comme Dieu le produit, tout simplement. Donc, et d'ailleurs, ce que Spinoza appelle dans son texte les décrets éternels de Dieu, ce qu'il appelle ainsi, ce n'est pas autre chose que les lois universelles qui régissent la nature et que notre science parvient à connaître, comme par exemple la loi de la chute des corps. Vous voyez ? Alors, les décrets éternels de Dieu, donc, ce sont les lois de la nature que la science parvient à connaître quand elle les connaît. Donc, vous voyez que ce Dieu nature diffère radicalement du Dieu personnel des religions révélées. Et pourtant, c'est la même chose. Je m'explique. C'est-à-dire que les religions révélées ne connaissent pas vraiment Dieu. Elles l'imaginent. Ce n'est pas la même chose. Elles ne connaissent pas vraiment Dieu, elles le saisissent imaginairement de manière anthropomorphique. En l'appréhendant comme un être qui veut, comme une personne. Comme un être qui veut, qui commande, à l'image que l'homme se fait lui-même, en s'imaginant lui-même comme un être doté d'une volonté. Comme un être doté d'un libre arbitre, c'est-à-dire d'un pouvoir de choix, d'un pouvoir absolu de choix. Et c'est parce que nous nous imaginons nous-mêmes comme des êtres dotés d'un libre arbitre que nous allons projeter cette manière dont nous nous imaginons sur Dieu. Et que nous allons imaginer que Dieu est un être doté d'une volonté qui décide de faire exister l'univers, il est créateur, et qui décide d'ordonner le monde selon un plan, hein, c'est-à-dire de manière sage. Voyez ? C'est-à-dire que, vous voyez, ici, au fond, les religions révélées parlent de Dieu, elles parlent de l'être absolu, mais sans parvenir à exprimer vraiment son absoluité. Seule la raison peut concevoir ce caractère absolu de Dieu. Les religions appréhende Dieu sur le mode de l'imagination. Vous voyez ? Et c'est ainsi, donc, évidemment, que pour les religions révélées, donc pour les religions révélées, notamment pour les religions selon lesquelles le prophète transmet la parole divine, eh bien, selon, pour ces religions révélées, Dieu apparaît donc comme un créateur, comme un législateur, c'est-à-dire comme un être transcendant, supérieur et extérieur à la nature, alors qu'en fait, en réalité, si on conçoit Dieu rigoureusement, Dieu, il n'est pas autre chose que la nature qui s'auto-produit, qui se fait, parce que la nature, ce n'est pas quelque chose de figé, elle est constituée par un dynamisme qui engendre toute chose. Vous voyez ? Donc, il est clair, j'espère que ce n'est pas trop compliqué, il est clair, en tout cas, que celui qui parle de Dieu philosophiquement, à partir justement de la raison, à partir de la connaissance naturelle, et celui qui parle de Dieu comme d'une volonté qui s'exprime par l'intermédiaire d'un prophète, eh bien, ces deux hommes n'ont pas le même langage. Ils ne parlent pas de Dieu de la même manière, on est d'accord. Pour ce que Spinoza appelle le vulgaire, donc l'homme ignorant et superstitieux. Dieu se révèle en particulier à un prophète. Il ne s'exprime pas universellement par des lois que la raison peut connaître. Et comme l'a montré la préface du traité théologico-politique, eh bien, le vulgaire, donc l'homme superstitieux, déprécie la raison, qui repose, comme le dit ici Spinoza, sur des principes communs à tous. Il déprécie la raison. La raison, on l'a vu, hein, on l'a dit tout à l'heure, la raison est quelque chose qui lui paraît finalement vil et sans intérêt. Hein. Et à l'inverse, l'aspect étrange et mystérieux des prophéties lui paraît le signe par excellence d'une connaissance supérieure qui seule mérite son intérêt. Le caractère rare et étrange de la prophétie, son caractère extraordinaire, son caractère exceptionnel, lui apparaît comme l'expression privilégiée de Dieu, comme la preuve qu'il est au-delà de la nature, qu'il est surnaturel. Vous voyez ? Alors que penser Dieu de manière rigoureuse par la raison, c'est le penser comme immanent à toute chose, comme la réalité elle-même en tant qu'elle s'autoproduit. Tandis que quand vous concevez, quand vous imaginez Dieu comme une volonté qui se manifeste en se révélant à un prophète, eh bien effectivement, vous le concevez comme un être qui est au-dessus de la nature, hein, qui est au-delà de la nature, qui est surnaturel. Vous voyez ? Donc c'est pourquoi, eh bien, cet homme qui croit que Dieu se révèle à travers des prophéties, eh bien, cet homme ne peut envisager que la définition de la prophétie comme connaissance certaine révélée aux hommes par Dieu. Il ne peut pas envisager, cet homme, que cette définition de la prophétie puisse s'appliquer à la connaissance naturelle, à la connaissance rationnelle. Et comme on le voit au début du premier chapitre, toute la stratégie de Spinoza consiste à se démarquer, voyez, de l'approche superstitieuse qui commande ordinairement la définition de la prophétie. Et sans affirmer encore que seule la connaissance naturelle est une vraie connaissance, sans affirmer encore que seule la connaissance naturelle possède une vraie certitude sur le plan du savoir, sur le plan théorique, il tient à montrer au moins que sur le plan justement du savoir, sur le plan de la certitude, elle n'a rien à envier à la prophétie qui n'apparaît certaine qu'au seul prophète. Elle n'a aucun, la prophétie au sens ordinaire n'a aucun privilège, parce que la connaissance naturelle, elle aussi, vient de Dieu. Donc, et si on compare la connaissance naturelle et la prophétie en tant que mode de connaissance, eh bien, la comparaison est à l'avantage de la première. La connaissance naturelle a l'avantage d'être accessible à tous les hommes. Ainsi, et c'est ce qu'il va montrer dans un passage que on va lire ensemble, ainsi les hommes qui sont enseignés par un savant, une loi de la nature, c'est-à-dire un décret éternel de Dieu. Eh bien, les hommes qui se font enseigner par ce savant une loi de la nature, eh bien, comprennent cette vérité avec la même certitude que le savant qui la leur enseigne. Lisons, si vous voulez, le texte, chapitre 1 de la prophétie, ligne 41 à 46. Ligne 41 à 46. Je lis. Toute divine, cependant, qu'est la science naturelle. On ne peut nommer prophètes ceux qui en sont les propagateurs. Car ce qu'ils enseignent, les autres hommes peuvent le percevoir et le saisir tout aussi bien qu'eux. Et avec une certitude égale, non par la foi seule. C'est-à-dire ici, prenons un exemple. Prenons l'exemple de Galilée. Galilée enseigne celui qui élabore la loi de la chute des corps, celui qui conçoit l'hypothèse héliocentrique. Lorsque Galilée enseigne aux autres hommes la loi de la chute des corps, il démontre, hein, ce qu'il avance. Eh bien, aussitôt que les autres hommes ont compris ont compris la loi qu'il enseignait, eh bien, ils la comprennent avec une certitude égale à celle de Galilée. Ils ne comprennent pas moins bien, ils ne comprennent pas plus, ils comprennent d'une certitude égale ce que leur enseigne Galilée. Et en ce sens, il n'y a aucune supériorité du savant sur ses disciples. Il n'y a aucune supériorité de celui qui enseigne sur celui qui est enseigné. En ce sens, puisque c'est par la raison qu'ils comprennent également. Contrairement aux prophètes auxquels les autres hommes doivent faire confiance lorsqu'il leur transmet la parole de Dieu. C'est-à-dire, au fond, on pourrait aller jusqu'à dire que la connaissance naturelle, bon, c'est une prophétie sans prophète, en quelque sorte. On n'a pas besoin de prophète. Dès lors que celui qui a compris un décret éternel de Dieu, une loi naturelle, et bien, dès lors qu'il l'explique, eh bien, les autres comprennent aussitôt. Vous voyez ? Alors, un passage du texte pourrait laisser penser que Spinoza affirme tout de même une supériorité de la prophétie sur la connaissance naturelle. On pourrait penser qu'il y a un passage qui contredit tout ce que je viens de vous dire. Mais je voudrais vous montrer que il n'en est rien. En fait, je veux dire qu'on risque de mal comprendre ce passage en le lisant trop vite. Et je voudrais, avec vous, lire d'abord ce passage. Ligne 30 à 34. Ligne 30, vous l'avez repéré. Alors, elle, c'est la connaissance naturelle. Elle diffère d'ailleurs de celle que tous nomment divine. Tous, c'est-à-dire les hommes ignorants, superstitieux, qui nomment divine seulement la prophétie au sens usuel. Hein. Elle diffère d'ailleurs de celle que tous nomment divine, en ce point seulement que cette dernière s'étend au-delà des limites de la première et ne peut s'expliquer par les lois de la nature humaine, considérées en elles-mêmes. Je relis ce passage. Elle, dans la connaissance naturelle, la connaissance rationnelle, diffère d'ailleurs de celle que nous nommons, de celle que tous nomment divine, en ce point seulement que cette dernière s'étend au-delà des limites de la première et ne peut s'expliquer par les lois de la nature humaine considérées en elle-même. Alors, si on lit trop rapidement ce passage, on peut être incité à croire que la prophétie, donc, est une connaissance supérieure qui serait capable d'aller au-delà des limites de la connaissance naturelle, c'est-à-dire de la raison, et de s'élever au surnaturel. Vous voyez ? Donc que la connaissance prophétique, la prophétie, serait supérieure à la connaissance naturelle parce qu'elle serait capable de s'élever à un ordre de réalité supérieur. Vous voyez ? Elle irait au-dessus. Mais si vous regardez bien le texte, ce n'est pas ce que dit Spinoza. Au-delà des limites de la connaissance naturelle, ça ne veut pas dire au-delà de la nature. Ça ne veut pas dire au-delà de la nature. Attention. Et c'est vrai qu'on est très vite enclin à confondre, on est tenté par cette première interprétation si on lit trop vite. Ce qui serait d'ailleurs à ce moment-là totalement contradictoire avec tout ce que dit par ailleurs Spinoza. Alors, que la prophétie aille au-delà des limites de la connaissance naturelle, ça ne signifie pas qu'elle aille au-dessus, qu'elle s'élève à un ordre de réalité supérieur qui serait le surnaturel. Cela signifie seulement que la prophétie parle de choses que la raison ne peut pas atteindre et que par conséquent la prophétie ne peut pas s'expliquer par la raison. Tout simplement. Et si vous regardez bien exactement ce que dit Spinoza, je précise sa formule, hein, il dit exactement « elle ne peut pas s'expliquer, c'est-à-dire la prophétie, par les lois de la nature humaine considérées en elle-même ». Je souligne cette expression, « considérées en elle-même ». Alors, en d'autres termes, les seules lois de la nature humaine ne suffisent pas à expliquer la production des prophéties. Mais cela ne veut pas dire qu'elles n'entrent aucunement en jeu dans leur production. Seulement, elles n'entrent pas en jeu toutes seules. Elles agissent en conjugaison avec d'autres causes, avec les lois qui gouvernent d'autres choses que les lois de la nature humaine. Et on verra ainsi, ce sera le programme de la fois prochaine, de la séance suivante, on verra ainsi que les prophéties, ce sont des productions de l'imagination. Ce sont des productions de l'imagination des prophètes. Ce n'est pas des productions de la raison, ce sont des productions de l'imagination. Il y a un autre mode de pensée que celui de la raison, qui est l'imagination, qui a ses propres lois de fonctionnement, et d'ailleurs que Spinoza va admettre ne pas bien connaître. Vous voyez ? Or, l'imagination, qu'est-ce que c'est que l'imagination ? C'est ce mode de pensée qui exprime la manière dont les hommes sont affectés par le monde extérieur dans lequel ils sont insérés. C'est-à-dire que les pensées imaginaires, les productions imaginaires, expriment la manière dont la nature humaine est affectée, dont la manière humaine produit des pensées qui sont le fruit de sa rencontre avec un certain nombre de causes extérieures. Vous voyez, l'imagination, elle est au carrefour de ce que nous sommes, de notre nature, avec le monde extérieur. Et les pensées imaginaires, elles expriment la manière dont nous sommes affectés par le monde extérieur, tout simplement. Et quand je parle du monde extérieur, la société, l'éducation, enfin les événements psychologiques de ma vie, etc., etc. Vous voyez ? C'est-à-dire que, autant la raison, c'est un mode de pensée autonome, vous voyez, qui repose sur ses propres principes, vous voyez. L'imagination, c'est un mode de pensée où l'homme, effectivement, est sous la pression de causes extérieures. Vous voyez ? C'est différent. Eh bien, c'est ce que nous verrons en poursuivant notre lecture. Toujours est-il que notre texte, si vous voulez, après cette mise au point, hein, qui peut paraître un peu compliqué au départ, mais après, ça va se simplifier. Eh bien, notre texte ne traitera dans le chapitre premier que de la prophétie au sens usuel du terme. Et puisque l'usage ne veut pas inclure la connaissance naturelle dans la définition de la prophétie, pour les raisons que nous avons indiquées, eh bien, maintenant, laissons ça. Nous n'allons parler que de la prophétie au sens ordinaire du mot, tel que les hommes en parlent. Et donc, la question, à ce moment-là, sera celle de savoir à quoi on reconnaît une prophétie. Qu'est-ce qui caractérise une prophétie ? Et là, je cite Spinoza, ligne 69 à 76. Ligne 69 à 76. Alors là, je suis désolé, le texte n'est pas très beau, mais on va réussir à le déchiffrer. Tous ceux, c'est tout en fait en bas et en haut, tous ceux, cependant, qui peut être dit de ces causes et moyens, doit être tiré de la seule écriture. Que pouvons-nous dire, en effet, sur des choses dépendant des limites ? Que pouvons-nous dire en effet des choses dépassant, les limites de notre entendement, hors de ce qu'ont transmis les prophètes eux-mêmes, soit oralement, soit par écrit. Et n'ayant aujourd'hui nul prophète, que je sache, il ne nous reste qu'à dérouler les volumes sacrés à nous laisser par les prophètes. Vous avez réussi à déchiffrer ? Bon. Alors, au fond, l'idée là est très simple. Puisqu'on ne peut pas expliquer les prophéties par la raison, puisqu'on ne peut pas en avoir une intelligence, puisqu'on ne peut pas avoir une intelligence des causes de leur production. Eh bien, il faut les étudier telles qu'elles nous sont transmises par les prophètes. Et comme aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes, eh bien, la solution, eh bien, c'est de lire les livres dans lesquels les prophéties ont été consignées. Et nous ne pouvons donc les connaître qu'en lisant la Bible. On n'a pas d'autre possibilité. Alors, je voulais juste faire une petite remarque au passage, c'est que ce que dit Spinoza est ici assez contestable. Il le sait très bien. Il le sait très bien parce qu'il est en train de vous dire, en train de nous dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes. Or, à son époque, un certain nombre de sectes protestantes revendiquent d'être fondées sur des assemblées de prophètes. Il y a même à son époque des hommes qui, effectivement, comme je crois Cromwell, se présentaient comme prophètes. Donc, l'idée est discutable. Et, d'une certaine façon, ici, Spinoza se rallie à l'opinion que les églises instituées ont des prophètes, parce que pour les églises instituées, au fond, la prophétie, c'est quelque chose qui est de l'ordre du passé. Il y a eu des prophètes, et c'est, au fond, à partir d'eux que les églises se sont instituées. Mais elles ne tiennent pas à ce qu'il y ait aujourd'hui des prophètes, parce que, comprenez, que la prophétie, elle pourrait remettre en question l'institution. Donc, vous voyez que l'Église, les églises instituées, elles ont un rapport assez ambivalent à la prophétie. Elles valorisent la prophétie dans les Écritures, dans le passé. Bon, ça, c'était autrefois. Mais elles considèrent qu'il ne peut plus y avoir de prophétie parce qu'elles tiennent à maintenir leur institution. Vous voyez, elles ne peuvent pas, elles ne veulent pas être mises en question par, au fond, des prophètes actuels. Donc, je ferme cette parenthèse. En tout cas, comme le montre Spinoza, c'est en lisant la Bible qu'on va pouvoir connaître les prophéties. Et là, je lis simplement un exemple. Regardez la ligne 102. La ligne 102. Colonne de droite. Par exemple, Dieu a révélé à Moïse, par une parole réellement perçue, d'après la Bible, hein, les lois qu'il voulait qu'ils fussent prescrites aux Hébreux, le Décalogue, comme cela est établi par l'Exode, chapitre 25, verset 22. Donc vous voyez que quand vous lisez la Bible, vous avez affaire à tout un matériau, hein, qui vous permet de comprendre ce que sont les prophéties, puisqu'il y est dit très souvent que Dieu s'adresse à Moïse ou s'adresse à Josué ou à Ézéchiel ou à Daniel. Enfin bon, vous avez une multitude de prophètes et Dieu s'adresse à chaque fois à eux. Et c'est leur prophétie qui se trouve consignée. Donc vous avez un matériau extrêmement riche sur lequel il faut vous appuyer si vous voulez savoir ce que c'est que la prophétie. Si vous voulez avoir une idée de la piété et de la religion, ben, il faut commencer par là. Alors, je n'en dirai pas tellement plus aujourd'hui. On verra. J'annonce simplement ce que nous allons dire après. On verra que l'étude de la prophétie va montrer que les prophéties, ça c'est le premier chapitre, se présentent selon deux modalités. C'est-à-dire soit par des paroles, soit par des figures, des visions, si vous voulez. Alors que le prophète, quand il raconte sa prophétie, bon, il entend des voix, il rapporte ses voix, où il imagine, enfin il voit, il a des visions. Et c'est comme ça que les prophéties se manifestent. Par ailleurs, l'examen des figures rhétoriques qui accompagnent le récit des prophéties, comme par exemple l'expression qui revient souvent, l'esprit de Dieu, en hébreu, eh bien, l'examen de ces figures rhétoriques permettra de comprendre que les prophètes, en se pensant inspirés par Dieu, sont comme habités par une force étrangère qui n'est pas autre chose que leur vive imagination. En fait, et vous voyez, la lecture de Spinoza, ce qui va montrer, mais pas de façon arbitraire, en s'appuyant sur les textes, sur les expressions du texte, sur les formules qui sont utilisées quand une prophétie est rapportée, il va montrer que, au fond, il y a une expression qui revient constamment, c'est esprit divin, esprit de Dieu, et que cet esprit de Dieu, par un travail d'étymologie, eh bien, ça traduit au fond une sorte de force qui se trouve dans le prophète, qui s'exprime fortement en lui, et qui est au fond une très forte imagination. Et c'est cette forte, vive imagination qui produit surtout les prophéties. C'est-à-dire qu'au fond, alors vous voyez la transformation, au lieu, qu'est-ce que c'est que la révélation ? Au départ, on part de l'idée que c'est Dieu qui se révèle à travers, effectivement, le prophète, à travers sa prophétie. Et là, de plus en plus, on décrit la révélation comme une force intérieure. Et le changement. Et puis, à la fin du chapitre, eh bien, vous verrez que Spinoza arrivera à la conclusion que la prophétie est essentiellement une production de l'imagination des prophètes. Alors évidemment, cela mettra en doute l'idée qu'il y a une révélation surnaturelle, c'est clair. Cela mettra en doute la certitude de la prophétie sur le plan de la connaissance. Mais, comme je vous le disais, Spinoza ne conclura pas pour autant qu'il faut considérer uniquement les prophéties comme des énoncés totalement faux. Il ne va pas poser la question de la vérité ou de la fausseté, si vous voulez. Il ne va pas conclure que les prophéties sont des fictions purement arbitraires ou mensongères. Vous aviez au XVIIe siècle des théoriciens qui considéraient que les prophètes, c'était des imposteurs, hein, qui inventaient des histoires pour pouvoir se faire obéir. Non, Spinoza va montrer que le prophète est parfaitement sincère. Et qu'il a de grandes qualités morales qui font que les hommes le suivent. Donc ce ne sont pas des fictions arbitraires, ce sont des productions de l'imagination, mais qui n'ont rien à voir avec, les productions de la poésie. Le poète, que lorsqu'il élabore une fiction, il sait que c'est une fiction. Le prophète, lorsqu'il produit une prophétie, il est intimement convaincu qu'il énonce quelque chose de vrai. Vous voyez ? Et donc, dans le deuxième chapitre, eh bien, il va montrer que la certitude qui constitue la prophétie, ce n'est pas une certitude théorique, c'est une certitude d'ordre moral. C'est une certitude d'ordre moral. Et il va, à ce moment-là, centrer son analyse sur la personnalité des prophètes en dévoilant la fonction essentiellement morale qu'ils ont auprès des hommes. C'est-à-dire, au fond, le prophète, c'est un homme, en quelque sorte, qui est là pour, en quelque sorte, ramener les hommes vers le droit chemin, celui de la justice, celui de la charité, vous voyez ? Et sa vocation est essentiellement morale. Vous voyez ? Il a un rôle même, on pourrait dire, un rôle politique, hein ? Il va jouer un rôle politique et moral. Et c'est ce que nous verrons en lisant à ce moment-là le deuxième chapitre, qui lui sera beaucoup plus centré sur la question des prophètes. Vous voyez ? Mais je ne vais pas en dire plus pour ce soir. J'espère que ça n'a pas été trop dense. Merci. Et je suis à vos questions, si je peux y répondre. Oui ?
Est-ce que la conception de Dieu par Spinoza, on ne peut pas comprendre qu'elle soit décevante aux yeux du vulgaire, c'est-à-dire de moi, de nous peut-être, qui sommes quand même pervertis devant le mystère du monde, de l'existence. Même Einstein, il n'a pas grand-chose à dire sur le mystère de l'existence. Il y a une soif qui n'est pas étanchée par la science et qui reste un lieu où peuvent s'engouffrer un manque profond.
Alors, je vais vous répondre que pour Spinoza, il n'y a rien de mystérieux. Ça ne veut pas dire que nous puissions tout comprendre, puisque nous sommes limités. Mais ce que nous ne comprenons pas, ce que nous ne connaissons pas, n'est pas a priori inintelligible.
Il serait scientiste en quelque sorte.
Non, pas scientiste non plus. C'est une position, si vous voulez, qui consiste à présenter, au fond, la science comme une sorte de religion révélée, en quelque sorte. Hein. Bon. Non, là, il y a effectivement tout ce qui est rationnel, tout ce qui existe se produit selon des lois nécessaires. Et rien n'est a priori inintelligible et incompréhensible. Alors vous pourriez me dire que oui, mais ce qui est intriguant, ce qui est mystérieux, c'est le fait que tout soit compréhensible, que tout puisse se comprendre. Ça, c'était plutôt c'était en ce sens-là, à mon avis, que Einstein posait sa question. Mais il était spinoziste, Einstein. Il assumait l'idée que, au fond, la réalité puisse effectivement se connaître, se comprendre. Selon des lois, et que ce qui serait proprement mystérieux, c'est que tout puisse effectivement ainsi se comprendre, se connaître, se plier au fond à notre raison, dans la mesure où, évidemment, cette raison s'exerce. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire, évidemment, que nous puissions tout comprendre, parce qu'il y a une telle complexité du réel, il y a un tel enchevêtrement de causes, qu'effectivement, j'ai beau savoir que tout s'explique, que tout peut s'expliquer, ce n'est pas pour autant que je vais réussir à démêler les chevaux des causes qui produisent un phénomène. Hein ? Mais il n'y a rien, a priori, qui soit de l'ordre de l'arbitraire. Tout a une raison d'être. Tout est lié. Enfin, l'idée que, comment dirais-je, Dieu, c'est l'idée que tout est lié, que tout ce qui se produit est enchaîné à d'autres choses, etc. Enfin, il n'y a pas de phénomène qui se produise de lui-même, spontanément, indépendamment de toute cause.
Il y a quand même de l'inattendu.
Oui, l'inattendu pour nous, parce que nous sommes ignorants.
Qui déstabilise...
Il y a du hasard parce que nous sommes ignorants. Il n'y a de hasard que pour celui qui ignore les causes qui se produisent.
Je crois qu'il y a du hasard en dehors du fait que nous soyons ignorants.
Mais... Non, mais en tout cas, pour Spinoza, le hasard n'est qu'une projection de notre ignorance sur le monde.
Ça se discute, mais...
Ben, mais voilà, l'idée... Non, mais c'est un rationalisme intégral, c'est un déterminisme absolu.
Oui, voilà.
C'est un déterminisme absolu. Voilà, il n'y a pas de mystère en ce sens-là. Alors, on reprendra la question, éventuellement.
Oui, en fait, pour rester un petit peu dans la même logique, il me semble que dans le traité de la réforme de l'entendement, à un certain moment, Spinoza met des limites, justement, au développement des sciences, que ça pourrait gêner, justement, son point le plus important, c'est l'élément moral, l'élément éthique.
Oui.
C'est un éthique, en fait. Il ne cherche pas, c'est pas un développement, il ne cherche pas à être maître de la nature, de tout connaître. C'est plutôt faire en sorte que les gens puissent, régler leur conduite et de façon à atteindre le souverain bien.
Que la connaissance, est un accomplissement de soi.
Voilà.
C'est que développer sa raison, c'est pas le but, c'est pas. Le but, c'est pas de connaître et d'être pourquoi être plus puissant et puis et c'est pas du tout ça. C'est que effectivement la connaissance est ce qui nous permet d'être plus libre.
C'est un moyen, c'est une façon pour le développement de la.
Voilà. Tout à fait. C'est ça le but essentiellement.
Il y a un autre point que j'ai noté effectivement, c'est que tu parles en fait des prophètes en les mettant sur une ligne d'égalité, d'une façon en disant que ils sont mus par l'imagination, une imagination tout à fait forte, qui a des qualités en fait qu'il va certainement développer, Mais j'ai l'impression qu'il fait une distinction entre prophète et prophète, notamment Moïse, qui le traite un peu comme ayant vu Dieu, je crois.
Alors, c'est pas lui.
Mais peut-être que tu vas développer ça.
Bien sûr. En fait, c'est pas lui qui fait cette hiérarchie. C'est d'une certaine façon la religion juive. Et ce sont des penseurs comme Maïmonide, par exemple,
voilà.
Qui avec lequel il est en discussion. Enfin, un philosophe juif très important qui fait de Moïse le prophète sage par excellence. Voilà. Donc, et lui, au contraire, Spinoza, bon, il prend acte du fait qu'il y a une hiérarchisation qui est faite, mais si on relit le premier chapitre, il va montrer que Moïse, c'est un prophète comme les autres. Il est tout aussi ignorant que les autres. Il n'a rien d'exceptionnel.
Et le deuxième exception, c'est par rapport au Christ, en fait.
Le Christ a un statut vraiment très particulier.
En fait, il n'est pas vraiment prophète, je pense qu'il a une autre...
Alors voilà, là c'est très particulier et très étrange.
Mais je pense que là, j'anticipe peut-être sur le...
Tout à fait, alors, bien sûr. C'est sûr, je n'ai pas vraiment encore abordé le problème. Enfin, j'ai essayé de poser le cadre...
Ouais, ouais.
De montrer. Alors, c'est vrai que ces deux premières pages du chapitre 1 sont assez délicates, elles peuvent paraître un peu ardues parce qu'elles présupposent tout de même qu'on connaisse un peu l'éthique de Spinoza.
Oui, oui.
C'est vrai que c'est pas simple au départ.
Oui,
pour quelqu'un qui rentre dans le chapitre 1er, il y a quelque chose d'assez déstabilisant. Hein. Mais bon, une fois ce passage éclairé, bon, on peut alors à ce moment-là entrer plus facilement dans le texte. Hein. Alors, il y avait une question.
Oui, par rapport à Moïse, là, dans le texte, là, sur la ligne de sang, il est indiqué que Moïse, lui, en fait, la voix de Dieu.
Il a vraiment vu.
Non. Oui, il a vraiment vu.
C'est ce que dit la Bible.
Est-ce que Spinoza en fait quand même une exception?
Il est obligé de prendre acte, puisqu'il s'appuie sur la Bible.
J'ai eu la même impression.
Ah oui, il s'appuie sur la Bible, donc il est bien obligé de prendre en considération que Moïse fait exception de ce point de vue-là, du point de vue du texte. Mais en même temps, après, on va s'apercevoir que si on prend en sérieux ce que la Bible dit de Moïse, on tombe dans de redoutables difficultés. Ce qu'il va montrer. Mais bon, on ne va pas entrer là-dedans tout de suite. Hein. Mais oui, il prend... C'est vrai qu'il est assez honnête. Il lit la Bible, il prend en considération la Bible telle qu'elle présente les prophètes. Il se bat avec un matériau. Hein. Il n'invente pas le texte de la Bible. Hein. Il retient des éléments et travaille avec ça. En fait, il se sert au départ de la Bible, des Écritures, comme d'un matériau pour réfléchir à ce qu'est la religion. Vous voyez ? C'est comme ça qu'il la traite. Et ce n'est qu'au chapitre 7 qu'il va considérer l'Écriture, donc la Bible, comme texte intégral, et qu'il va s'interroger sur la bonne méthode de lecture, sur la bonne interprétation de lecture. Et que là, elle va devenir l'objet même de sa réflexion. Mais avant, elle ne fournit que du matériau. Alors, il y a les prophéties, il y a les miracles, les cérémonies, ce qu'on appelle la loi divine, ouais, jusqu'au chapitre 7, c'est comme ça. Donc, oui, Moïse pose un problème.
Oui. Est-ce que la façon de voir Dieu, ça a quelque chose à voir avec l'élan vital de Bergson?
Ah, ça c'est une bonne question. Oui, quelque part, oui. Enfin, là, je vais donner une réponse un peu grossière. Le Dieu de Spinoza, quand je dis Dieu, c'est la nature, c'est le dynamisme interne à la nature qui produit toute chose et qui s'exprime en nous par notre désir, par notre force vitale. Nous participons, au fond, de ce dynamisme divin en désirant. Puisque le désir, c'est cette force vitale qui fait que nous produisons des actions. C'est-à-dire que l'être humain, comme d'ailleurs tout être, au fond, s'affirme en produisant des actions, comme toute. C'est-à-dire que c'est ce qu'il appelle le conatus, cette force vitale qui fait que nous cherchons à persévérer dans notre être, hein, en agissant. Bon, eh bien, ce dynamisme qui nous est intérieur, il est l'expression à notre échelle de ce qu'est Dieu. Et donc, effectivement, chez Bergson, l'élan vital est quelque chose qui ressemble fort à ce que dit Spinoza, effectivement, de la nature. Sauf que chez Bergson, ça va beaucoup plus dans le sens de la conception qui est celle de la religion révélée. Ça va on se rapproche beaucoup plus d'une conception chrétienne, notamment.
La volonté de ce Spinoza.
Ça fait penser effectivement à ce que dit Spinoza. On essaiera de faire une comparaison entre les auteurs. Effectivement, ça ressemble fort effectivement à ce que dit Spinoza. Tout à fait. Alors évidemment, vous êtes forcément décontenancé, surpris, parce que Spinoza dit de Dieu. Quand nous pensons Dieu, nous le pensons dans les termes des religions révélées. Hein ? Bon. Évidemment, pour Dieu, pour Spinoza, pardon, pas pour Dieu, pour Spinoza, Dieu est impersonnel. Dieu est impersonnel, c'est pas une personne. Crée pas, légifère pas. On n'a pas à croire en Dieu. On peut le connaître. On peut en avoir la connaissance.
Oui, mais en même temps, c'est pas vraiment pour dire une abstraction, quelque chose.
Non.
Il va développer dans le livre 5.
Non, c'est pas une abstraction, puisque c'est la réalité. C'est le fond de la réalité qui est en nous.
Mais en fait, il y a une question, il va parler de l'amour de Dieu.
L'amour de Dieu.
C'est l'amour de Renaté.
Tout à fait. Ça, mais l'amour.
Il
fleure sans arrêt. En fait, la difficulté avec Spinoza, c'est qu'il fleure sans arrêt avec les termes traditionnels, oui, mais pour les subvertir, pour en subvertir le sens. Alors c'est ça qui fait que c'est un philosophe qui n'est pas aussi difficile qu'on pense à lire, mais qui est tout de même pas évident au départ, parce qu'effectivement il réemploie des termes que nous voyons employer dans les religions révélées, mais pour en changer le sens. Mais c'est vrai que Dieu c'est pas une abstraction, c'est le réel qui nous traverse.
Oui, c'est ça, on n'est pas indifférent à Dieu. Non. Il y a un différent à Dieu.
Et donc, l'accomplissement du désir, c'est l'amour de Dieu.
Voilà.
C'est pour ça qu'il
est très difficile.
Oui et non en même temps. Enfin, oui, bien sûr.
C'est très beau, d'ailleurs, ensemble.
C'est une très belle intuition. Magnifique intuition. Et. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on ne peut pas faire de Spinoza un mystique.
Non.
On ne peut pas, c'est un rationaliste, c'est clair. Mais la raison, ce n'est pas quelque chose de desséché, pour lui. Pas quelque chose d'abstrait. La raison, elle est, au fond...
Mais il y a eu des tentatives pour le prendre du côté mystique. Hein,
On peut le comprendre, mais en même temps, il y a une idée, quand on parle de la raison, on pense que la raison, c'est quelque chose de desséchant, quelque chose d'abstrait, quelque chose qui nous est extérieur, alors que c'est, au fond, la raison, ce n'est jamais que notre désir qui se réfléchit. C'est pas quelque chose d'extérieur à nous, c'est en nous, c'est notre force. Mais bon, toute une habitude. Alors, c'est vrai que faut toujours commencer, il faut bien commencer une lecture. Et on lit un texte, on n'a pas lu les autres textes. Bon, on fait avec les moyens du bord. Hein. Là, il faut essayer au maximum de lire le traité théologico-politique sans trop présupposer de ce que l'on a pu lire par ailleurs. C'est pas toujours si simple, parce que c'est vrai que là, on voyait bien que dans ce passage que je vous ai lu, il y a tout de même derrière une référence au Dieu nature, hein, qui est celui de l'éthique. Bon, mais on peut en dire un minimum. Et on peut avancer dans sa lecture. Vous voyez. Bon, après, vous allez voir que, je dis encore une fois, son travail consiste à déchiffrer les prophéties, d'essayer de comprendre un peu ce que disent les prophètes, etc. Bon, c'est pas trop difficile.
Et c'est vrai qu'on est curieux de savoir ce qui peut bien se passer dans la tête d'un prophète.
Lui-même le sait-il. Il est porté. Il est inspiré de Dieu. Il est persuadé qu'il y a une force, enfin, que Dieu s'exprime. Il est vraiment intimement persuadé que Dieu s'exprime à lui. Bon, alors, et c'est vrai que, regardez, l'évolution du premier chapitre, c'est qu'il part de l'idée que Dieu se révèle au prophète, qu'il est une force extérieure, transcendante. Et puis, plus vous allez, plus vous approfondissez votre lecture, et plus vous voyez que Spinoza présente de plus en plus la révélation comme un processus intérieur au prophète, mais qu'il vit comme quelque chose d'extérieur à lui. Oui. C'est-à-dire que c'est vrai que ça, vous ne trouverez pas, bon, pour Spinoza, il n'y a pas de révélation surnaturelle, c'est clair. Ça, c'est l'homme superstitieux qui parle de révélation surnaturelle. La révélation surnaturelle, elle présuppose l'idée d'un Dieu qui veut, qui est extérieur à la nature, qui décide de faire exister la nature, qui intervient sur les choses, qui intervient dans la nature pour produire des événements favorables ou défavorables. Bon, ça, c'est la conception superstitieuse.
Sans compter les prophètes qui ont pris des substances, comme Saint Jean qui a écrit l'Apocalypse.
Ah, mais alors ça...
C'est assez barré comme...
C'est un prophète ou un apôtre? Attention. Pas la même chose. Pas la même chose, hein. Pas la même chose. Alors, bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça vous a paru très difficile? Un petit peu, mais bon, pas trop. Bon, alors, on continue comme ça, et je vous vois la prochaine fois, le 18. Bon, alors, regardez bien le site d'Internet, hein, de Philopope.